L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, nous parlons à présent du cancer du sein. Quels sont les moyens de prévention? Le cancer des seins est l'un des types de cancers fréquents en République démocratique du Congo. Maladie silencieuse, le cancer manifeste ses signes lorsqu'il est déjà à un stade, lorsqu'il a atteint un stade avancé. Et cela entraîne la mort de plusieurs femmes à travers le pays. Cependant, il est possible de soigner son hygiène de vie pour prévenir cette maladie. Alors, quels sont les différents moyens de prévention? On en parle avec Dr Betou Isidore. Docteur, bonjour. Bien, vous êtes gynécologue obstétricien. Nous parlons aujourd'hui du cancer du sein. Alors, docteur, la première question est de savoir quelles sont les causes ou les facteurs qui sont à l'origine de cette maladie.
Merci pour la question. Comme vous le savez, pour tous les cancers, les primes mauvaises, c'est-à-dire la cause principale, n'est pas encore connue. Donc, vous le savez, à travers le monde, il y a des études qui sont menées presque partout à travers le monde, dans des pays où il y a des moyens, et il y a des moyens pour la recherche, pour trouver la cause. Si pour certains cancers, entre autres, par exemple, celui du col, ou maintenant...
Oui, docteur, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, parce que on ne vous entend pas très bien.
Je dis, hein? Là, ça va?
Oui, ça va maintenant.
Oui, je dis que... la cause principale d'un cancer n'est pas encore connue. Et d'ailleurs, comme tous les autres cancers, la cause principale n'est pas connue. Il y a des facteurs favorisants, comme on dit, des facteurs qui peuvent entraîner le cancer. Donc, si par exemple, contrairement au cancer du col, avec toutes les études qui ont été menées, on a pu mettre en évidence un virus, l'HPV. Va incriminer dans le cancer du sol, il n'en est pas de même pour le cancer du sein. Donc, il y a par contre certains facteurs. C'est un facteur lié à l'hérédité, facteurs qui sont liés probablement à l'environnement, certains facteurs qui sont liés à l'exposition de certains éléments, certains qui sont liés à l'âge, donc, ou aussi, si vous voulez, à la vie génitale de la femme. Donc, il y a tout ça, beaucoup de facteurs qui sont liés, mais il n'y a pas un seul facteur qui peut être donné comme étant à la base de...
Bien, donc on retient qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser cette maladie. Alors, premièrement, docteur, par rapport à l'environnement, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Bon, écoutez, les études qui ont été menées, beaucoup d'études ont été menées, on a constaté que dans les temps, tant bien même que pour l'instant ces études sont en train d'être battues en brèche, dans les temps, on constatait que la fréquence du cancer du sein était beaucoup plus élevée dans les pays développés, entre autres en Europe occidentale, aux États-Unis. Par contre, en Asie, par exemple, au Japon, en Chine, la fréquence était moindre. La même chose comme pour les pays en voie de développement. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des études qui sont peut-être menées en Europe pour voir quelle est la fréquence réelle maintenant de. Mais, il faut savoir que, par exemple, en Europe, la première cause de mortalité parmi les cancers en Europe, donc la femme.
Voilà, docteur, en tout cas, on n'arrive pas très bien, vous captez parce que vous sortez parfois un peu, le niveau est trop bas, parfois un peu plus élevé, c'est parce que c'est lié à la communication, mais je vais peut-être vous demander de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça peut améliorer davantage la liaison téléphonique.
Oui, allez-y.
Voilà. Nous avons déjà en ligne une auditrice, Esther Oubedi, qui nous appelle de Magui, dans la province orientale. Esther, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
J'ai une question à poser à notre invité. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas si c'est prouvé, mais dites ok, le fait de ne pas avoir allaité aussi prédispose à la personne de cancer, hein, notamment les cancers du sexe chez la femme. Alors, pour les femmes stériles, hein, permettez-moi les termes, sinon c'est douloureux pour ces femmes-là qui n'accouchent pas. Mmh. Pour ces femmes-là, quelles pourraient être les alternatives en vue de prévenir l'apparition des cancers du sein chez elles? Merci.
Voilà, donc, oui. Oui, Esther, la deuxième question, vous dites pour les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, quelle est la suite?
Pardon?
Oui, quelle est votre deuxième question?
Non, non, j'ai dit que le fait de ne pas avoir à allaiter,
oui,
même la femme,
oui,
dis-toi que ça prédispose aussi à l'apparition des cancers du sein chez la femme. Mmh. Alors, pour les femmes qui n'accouchent pas, quelles pouvaient être les alternatives en vue de prévenir l'apparition de ces cancers-là du sein chez cette femme-là stérile?
Bien, merci Esther pour la question. Freddy Kabamba, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, M. Jedi.
On vous écoute.
Oui, ça va, merci beaucoup. Moi, je voulais demander à notre invité, dans les laits de beauté qui est en train d'utiliser des femmes qui ont l'hydroquinone, est-ce que des laits de beauté, là, il n'y a pas d'autres laits de beauté qui provoquent le cancer? Deuxième question, mm-hmm. Notre invité peut nous dire quelle est la différence entre les mycoses et les cancers, parce que d'autres personnes, s'ils souffrent le cancer, peut-être s'ils souffrent le cancer, on lui dit que non, tu souffres les mycoses. S'ils souffrent les mycoses, on lui dit que tu souffres le cancer. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup.
Bien. La première question, vous parlez des laits de beauté utilisés par les femmes. Est-ce que ça ne peut pas être comme un facteur de risque? Et la différence entre mycose et cancer? Bien, nous allons retrouver Dr Betou Isidore, gynécologue, obstétricien, tout à l'heure. Vous avez des questions, des préoccupations par rapport au cancer du sein? Bien, appelez-nous au 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Faites-nous parvenir vos SMS au 081-711-50-01. Rejoignez-nous également sur la page Facebook d'Okapi Service.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Les histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Cancer des seins, quels sont les moyens de prévention? Docteur Betou Isidore, vous êtes en ligne?
Oui, je vous écoute.
Bien. Alors, Esther nous a appelé des Magui. Elle a posé la question suivante. Elle dit, d'après les informations qu'elle a reçues, les femmes stériles, celles qui n'allaitent pas, sont prédisposées à développer un cancer des seins. Alors, elle dit, quelles sont les alternatives pour ces femmes-là, les femmes qui sont dans cette situation-là?
Ok, sa question est très intéressante. C'est vrai que, comme toujours, hein, pour arriver à des conclusions comme celle-là, mmh. il faut des études. Et effectivement, des études avaient montré dans les temps que le cancer du sein était aussi un peu plus fréquent chez les femmes nullipares, c'est-à-dire les femmes qui n'ont jamais eu des enfants, mmh. par rapport aux femmes qui ont des multipares, qui ont eu beaucoup d'enfants et qui ont allaité beaucoup d'enfants. C'était un constat qui a été fait. Donc, on avait constaté durant ces études que l'allaitement était un facteur de protection contre le cancer du sein. Donc, pour ça, la deuxième partie de sa question, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mm-hmm.
Évidemment, il faut leur demander d'avoir les enfants, mais pas n'importe comment. Ceux qui ont des problèmes de conception, donc comme disons des problèmes d'infertilité, doivent voir le médecin, hein, afin mm-hmm. de faire une mise au point complète et éventuellement les aider à avoir un enfant. Donc ça c'est un des facteurs. Mais il ne faut pas oublier aussi que
des femmes qui sont des femmes qui ont accouché ont aussi le cancer du sein. Il y en a. Et ce cancer apparaît le plus souvent l'âge moyen c'est autour de 50, 60 ans. Voilà.
Bien. Nous avons, il y a un autre auditeur qui a posé la question. Freddy, avant de répondre à sa question, nous allons accueillir deux auditeurs. Docteur Kipasa, des Kikwit, et Rach Kiloutou. Rach Kiloutou se trouve également à Kikwit. Docteur Kipasa, bonjour.
Bonjour au docteur Beto et à tous les auditeurs. Juste une petite préoccupation sur le plan de la santé publique. Docteur Beto, quelle est la prévalence actuelle des cancers du sein chez nous au Congo? Et de deux, où est-ce qu'on en est avec le problème de la campagne ou la détection de cancer du sein? Il y avait un projet comme ça. Est-ce que ça va venir? Il y a 4-5 ans, on avait parlé de ce projet de détection précoce des cancers du sein pour aider nos populations. Quid de ce projet?
Bien. Rach Kiloutou, vous êtes également à Kikwit. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, je voulais poser une question à l'invité. C'est juste de savoir quels sont les signes qui se manifestent premièrement pour savoir et c'est le cancer du sein là.
Bien, merci. Docteur Isidore, d'abord la question de Freddy Kabamba, il dit, est-ce que l'élève...
Non, je réponds d'abord aux deux premières questions, sinon je n'ai pas un bic avec moi, je ne sais pas écrire.
D'accord.
Donc je réponds d'abord au confrère qui passe à écrire la deuxième question.
D'accord, allez-y.
Bonjour confrère qui passe, j'espère que vous vous portez bien. Bon, pour la deuxième question, disons les deux questions là, le problème de santé publique, de prévalence, en fait, il faudrait vraiment que nous ayons des statistiques fiables. Vous savez, des cancers du sein, comme pour dans la plupart des cas, sont découverts en retard. Les mamans, nos femmes ne consultent pas à temps lorsqu'il y a déjà un signe alarmant. Elles ne consultent pas à temps. Je répondrai, si vous voulez, à la question de l'autre intervenant, s'agissant des signes. Donc, pour avoir les statistiques, il faudrait d'abord que la santé publique, donc le ministère de la Santé publique, puisse mettre à disposition, si vous voulez, des praticiens, des statistiques. Je ne saurais pas vous donner des statistiques pour ne pas parfois donner de fausses informations. Il faudrait absolument qu'on voit. Enfin, je suis bien pris, comme on dit, à pied levé. Dans les statistiques, mon frère, je ne saurais pas vous les dire, mais il faut le faire. D'ailleurs, vous savez, pour la plupart des statistiques, vous savez ce que sont les statistiques dans notre pays. Donc, alors, pour les projets de dépistage, comme pour les cancers de sein, et même pour les cancers du col,
oui.
Vous savez, il y a eu plusieurs congrès, plusieurs séminaires, plusieurs conférences là-dessus. Des recommandations ont été faites au niveau des instances supérieures, entre autres le ministère de la Santé, enfin, le gouvernement et les instances qui peuvent nous aider à faire ça. Donc, il y a maintenant actuellement d'ailleurs des associations, une association qui s'occupe d'ailleurs du cancer, entre autres le cancer, c'est la femme. Bon, il n'y a pas encore une campagne
de dépistage précoce.
Non. Actuellement, en fait, c'est lors de nos consultations que nous expliquons aux mamans, que nous leur disons, voilà, à cet âge-ci, il faut se faire dépister. C'est-à-dire, il faut un examen de dépistage annuel ou deux ans s'il n'y a pas, tous les deux ans s'il n'y a pas d'antécédent de cancer. Par contre, s'il y a un antécédent de cancer dans la famille, dans la lignée de la femme, donc maman, sœur ou c'est pas moi, demi-sœur, s'il y a déjà un antécédent de cancer, alors cette femme-là, ou les jeunes femmes de cette lignée-là, sont obligées de se faire dépister très tôt, c'est-à-dire au moins une fois par an. À partir de 35 ans, il faut un examen complet, un examen clinique, un examen sénologique, un examen radiologique pour éventuellement dépister le cancer.
Bien. Et la question des RH, il veut savoir quels sont les signes du cancer des seins chez la femme.
Ah oui. Bon, nous demandons généralement, parce que vous voyez, parfois on découvre ça en retard, nous demandons aux femmes l'auto-examen de seins, des AES. C'est-à-dire qu'une femme doit se mirer, se regarder dans la glace, voir ses seins habituellement, parce qu'elle connaît sa poitrine, si il y a des modifications ou pas. Quelles sont ces modifications? Habituellement, les seins ont une même couleur, la même couleur que la peau. Elle peut constater une certaine rougeur au niveau du sein. ça c'est un des signes, ou une douleur au niveau du sein. Il peut constater une sorte de rétraction. La peau est quelque peu rétractée, soit au niveau du mamelon, soit au niveau de l'aréole, soit au niveau même du sein, de la glande. Ça, ce sont des signes. Et un autre signe, celui-là d'ailleurs, c'est qui amène souvent les femmes à nous consulter, c'est l'apparition d'une boule, entre guillemets, nous disons d'un nodule, d'une masse au niveau du sein. En ce moment, il faudrait qu'elle voie le médecin pour faire les examens dont je viens de parler.
Bien, ce sont là les signes du cancer des seins. Et la question de Freddy était de savoir, est-ce que le lait de beauté que les femmes appliquent ne peut pas être à l'origine, être un facteur de risque de cancer?
Je n'ai pas d'information là-dessus. Avec tous ces produits cosmétiques que les mamans utilisent, habituellement, les laits qui sont vendus, les laits de beauté qui sont vendus dans les alimentations ou dans les parfumeries, tout comme ça, ce sont des laits qui ont fait l'objet des études antérieures afin de pouvoir le mettre à la disposition de la population. Généralement, les laits que nous utilisons ici n'ont pas d'impact réel sur l'apparition d'un cancer. À moins que, comme vous savez, les mamans africaines font beaucoup de mélanges pour éclaircir la peau. Et ces mélanges-là ne sont pas conseillés parce qu'on leur dit Salaboye, Batisaboye, Salaboye, pas un cocktail là.
Et Freddy
Ça, c'est dangereux parce que là, c'est surtout pour l'ensemble du corps.
Et Freddy, docteur,
pardon,
docteur, Freddy a beaucoup plus cité les laits de beauté à base d'hydroquinone.
Oui, ça dit que c'est ce que je dis. Tout ça a plus d'impact sur la peau et sur le sein. Vous voyez? Et sur les cancers du sein. Bon, là, les dermatologues vous diront les produits qu'il faut utiliser. Actuellement, vous savez qu'on déconseille tous les produits qui ont de l'hydroquinone parce qu'ils ont un effet, ils peuvent entraîner des pathologies au niveau de la peau.
Bien, nous avons deux autres auditeurs en ligne. Emmanuel Londo nous appelle de Paris, en France, et Aboubakar Issa est à Boutembo. Emmanuel Londo, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bien, vous êtes à Paris, en France. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je suis à Paris, précisément en France. J'aimerais poser la question au docteur gynécologue obstétricien. Je n'ai pas bien compris sur le cancer du col. J'aimerais qu'il me précise quelle est la cause du cancer du col. Et après, chez une femme enceinte, quelle est la conduite à tenir chez une femme enceinte qui est atteinte du cancer du col?
Bien, merci Emmanuel. Aboubakar Issa, vous êtes à Boutembo, Nord Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonjour aussi à notre invité. J'ai une petite préoccupation. Je vais demander à notre invité s'il peut me donner la réponse. Si quelqu'un est blessé par une machette qui est ruinée, est-ce que ça va amener le cancer à quelqu'un? C'est ça ma préoccupation.
Oui, blessé par une machette rouillée, vous voulez dire. Bien, oui. Merci. Docteur
Béthou. Oui, je réponds tout de suite là. Bon, écoutez, une machette rouillée, le plus grand danger, c'est le tétanos. Le plus grand danger avec, quand on est blessé par un objet rouillé, surtout dans le sable, ça c'est plus le tétanos qu'on craint. Ce n'est pas le cancer qu'on craint. Donc, ce n'est pas un des facteurs vraiment parmi les facteurs favorisants pour les cancers. Alors, pour notre correspondant de Paris, pas du cancer du col. Dommage, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Parlons du cancer du sein. Peut-être que nous parlerons du cancer du col et en ce moment, nous pourrons répondre.
Bien.
Mais, lui donner un bref aperçu, c'est-à-dire que même dans les temps, on ne connaissait pas la cause. Mais il y a des études qui ont été menées depuis une dizaine ou une vingtaine d'années qui ont mis un facteur favorisant. C'est-à-dire, on a trouvé le virus de l'HPV, qui est très fréquent, qu'on retrouve pratiquement dans tous les cancers du sein. Et ce virus est un des virus qui est transmis lors de rapports sexuels. Donc, qui est considéré actuellement comme une maladie sexuellement transmissible ou bien une infection sexuellement transmissible. C'est ainsi que les dames qui ont des multiples partenaires sont sujettes à contracter cette pathologie. Donc, c'est un des facteurs. Ça, c'est le virus qui est un peu responsable de ça. Mais, peut-être lorsque nous parlerons une autre fois de ces sujets, particulièrement de ces cancers du col, nous pourrons avoir un peu plus... on pourra vous donner un peu plus d'éclairs.
Bien. Ismaël Mumpo, il nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jodine Kachama. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question, Ismaël?
Oui, ma première préoccupation était celle de savoir plus de plupart des personnes du sexe féminin qui consultent les médecins pour le cancer, c'est dans un stade aussi avancé. Juste quand tu as le métastase, c'est là où ils consultent. Quel peut être les moyens nécessaires pour les sensibiliser en vue de consulter les médecins, soit un infirmier le plus proche de chez elles? La deuxième préoccupation était celle de savoir pour les traitements. À un stade, soit par exemple à un début, la chimiothérapie peut répondre favorablement et que peut être aussi le milieu dont on peut instaurer aussi ce système de traitement. Merci.
Merci Ismaël. Merci. D'ailleurs, sa première question rejoint celle d'un auditeur qui nous dit pourquoi ne pas organiser des campagnes de dépistage pour aider les femmes qui viennent toujours en retard lorsque la maladie est déjà déclarée ou elle a atteint un stade avancé.
Je crois que j'ai répondu à cette question de dépistage. Vous savez, c'est toute une politique, hein. C'est toute une politique de la santé publique. Il faut mettre le moyen. Il faut que les autorités responsables en charge de la santé puissent mettre les moyens nécessaires à la disposition des praticiens pour pouvoir faire les dépistages. Donc, commencer par une vulgarisation, donner l'information aux patientes. Il y a plusieurs moyens, soit par les médias, soit par des campagnes pour sensibiliser les gens. Donc, vous voyez, ça demande... de moyens, et ces moyens ne peuvent être mis à la disposition de la population que par les pouvoirs politiques. Donc, les ministères de la Santé en collaboration avec les praticiens pour pouvoir sensibiliser davantage les personnes. Alors, la suite, c'était pour quel est le traitement, je crois, la place...
Oui, il a parlé de la chimiothérapie, oui.
Oui, de la chimiothérapie. Bon, vous savez, ça dépend du stade du cancer. Vous savez, dans les cancers, il y a plusieurs stades, hein. Il y a les stades 0, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, comme vous voulez. Donc, ça dépend
du niveau.
Du stade. Parce que si c'est un cancer débutant, par exemple, qui est in situ, c'est-à-dire localement, hein, qui n'a pas avancé plus loin, on peut se limiter à faire ce qu'on appelle une tumorectomie, c'est-à-dire on peut enlever la boule ou la masse, le nodule en question. Et lorsqu'on fait un examen de cette masse qu'on a enlevée et qu'on voit que le bord tout autour, hein, le cancer n'a pas dépassé, on peut se limiter là et laisser le sein. C'est ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice. Mais par contre, si en enlevant la boule, en faisant la tumorectomie, et qu'on constate que les bords ont été déjà envahis, donc c'est que le cancer a poussé plus loin, en ce moment, on peut faire ce qu'on appelle une mastectomie. Mais parfois, lorsque le cancer est déjà avancé, à un stade avancé, stade 3 ou 4, 4 d'ailleurs déjà, parfois on n'y touche plus, hein, peut-être 2, en ce moment on peut faire une chimiothérapie antérieure pour pouvoir, chimiothérapie ou même une radiothérapie pour réduire le volume de la masse afin de procéder facilement à une chirurgie. Voilà.
Chirurgie, c'est-à-dire on enlève carrément
opérée.
Opérer.
En ce moment, on peut opérer. Bon, il y a d'abord une mise au point complète qu'il faut faire, hein, pour voir s'il n'y a pas de métastases déjà pulmonaires, s'il n'y a pas de métastases hépatiques, s'il y a déjà des métastases, nous sommes déjà au stade 4, là, on n'y touche plus, hein. Ce sera un traitement palliatif, symptomatique qu'on donne. Mais par contre, s'il n'y a pas de métastases, nous sommes encore au stade 1, en ce moment, on peut se permettre... Vous savez qu'il y a, la chirurgie, d'ailleurs dans notre milieu c'est plus la chirurgie, la chimiothérapie n'est pas à la portée de tout le monde, la radiothérapie également, nous n'avons pas d'appareil, actuellement il y a un centre qui a un appareil, mais c'est pas tout le monde, ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Donc, il y a l'hormonothérapie qu'on donne également, donc tout ça, ça dépend de chaque malade, on fait une mise au point, on voit, on intègre tous les éléments, on a une position définitive et on propose le traitement approprié.
Voilà. Alors, docteur Betou, une question d'un auditeur. Le cancer étant une multiplication désordonnée des cellules, oui. peut être expliqué comment au niveau du sein, particulièrement au niveau du sein?
Ça, c'est une explication assez longue, trop scientifique et trop cérébrale pour pouvoir...
En des termes simples, docteur.
En termes simples, ça veut dire qu'à un moment donné, les cellules d'un endroit, par exemple au niveau des canaux galactophores, au niveau des acinies, commence à se multiplier d'une manière désordonnée. Vous voyez? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Ça, c'est le point d'interrogation. C'est la même chose pour tous les autres cancers. Donc, bon, il y a des facteurs. Hein. Je vais vous donner un exemple. Il y a, par exemple, certains facteurs et certains cancers qui sont héréditaires. Il y a parfois des aberrations, des anomalies au niveau des chromosomes. Vous voyez? Il y a des familles comme ça. C'est qui on a découvert des familles porteurs de certaines anomalies, déjà au niveau des gènes. Si déjà au niveau des gènes, ça se transmet de génération en génération, ces femmes-là sont sujettes à faire un cancer. Un sur quatre ou un sur trois peut faire des cancers. Mais qu'est-ce qui démarre, qu'est-ce qui est à la base de cette multiplication? Là, il y a un point d'interrogation.
Bien, il y a un point d'interrogation. Alors, docteur, parlons maintenant de la prévention. Quel est l'hygiène de vie que les femmes doivent adopter, par exemple, au quotidien, pour prévenir le cancer des seins?
Bon, il n'y a pas, si vous voulez, une hygiène particulière pour prévenir le cancer du sein. Hein. L'hygiène, c'est l'hygiène corporelle de tous les jours pour éviter toutes les maladies que nous pouvons contracter. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire pour dépister à temps cette maladie. C'est-à-dire, c'est d'aller consulter les médecins. À un certain âge, lorsqu'on a déjà une trentaine d'années, 35 ans, il faudrait consulter un médecin régulièrement, une fois par an, pour pouvoir déceler à temps. Parce que là, vous savez, il y a des choses, il y a des cancers qu'on peut déceler cliniquement. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas déceler cliniquement, voire même éthiquement, lorsqu'il s'agit des microcalcifications. Parce que lorsqu'il y a une tumeur, une grosse tumeur, on peut voir cette opacité au niveau de la radio. Et ce nodule au niveau de... à partir de l'échographie, il y a des caractéristiques acoustiques, échographiques, pour pouvoir se dire, tiens, cette masse-là n'est pas normale avec ce signe ici. Alors là, on envoie à la radiologie, qui est un examen très important, très capital, ce qu'on appelle la mammographie. Et cette mammographie permet de déceler ces nodules, ces opacités. Il y a des opacités qui sont, comme nous disons en termes de pathognomoniques, c'est-à-dire que dès que vous voyez ça, une opacité stellaire, ça c'est sûr à 90%, 100%, 95%. Mais par contre, même à la radio, on peut voir des microcalcifications, c'est-à-dire des tout petits points blancs, des tout petits points dans une zone. Alors, dans les milieux bien outillés, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une radio. On introduit un harpon, c'est-à-dire une tige métallique, hein, sous contrôle radiologique, et on va jusqu'à ce point-là. Et cette femme va chez les chirurgiens, chez les gynécologues, et on enlève cette partie-là. Vous comprenez? On fait une chirurgie, on enlève cette partie-là, et on étudie, on va voir. Et l'examen histologique est très important aussi, parce qu'en ce moment, quand on voit en anatomie pathologie, on va classifier ce cancer-là. Vous voyez? Il y a des cancers très méchants et qui peuvent très rapidement emporter la patiente. Il y a des cancers moins méchants. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie d'examens.
Oui.
Une mise au point complète qu'il faut faire avant de pouvoir prendre une décision définitive.
Alors, on peut dire que pour diminuer le taux de cancer de sein, comme c'est la question d'un auditeur, la recommandation, c'est les dépistages précoces.
Oui, c'est les dépistages. Il en est de même pour les cancers du col. C'est les dépistages. Quand on fait les dépistages, chez une femme, on voit déjà des microcalcifications qui sont localisées à un point, focalisées à un point donné. On peut déjà traiter très rapidement et faire sortir, enlever cette partie-là. Donc, le dépistage est très important pour pouvoir, si vous voulez, diminuer un peu la fréquence de ces cancers. Et éviter les traitements invasifs qu'on appelle la chirurgie invasive, c'est-à-dire où on fait une mastectomie, on enlève le sein complètement, hein, on fait une ablation de la glande. Donc ça, c'est une chirurgie radicale. Mais si c'est, on découvre ça à temps, on peut se limiter à une tumorectomie et garder le sein.
Bien. Samy, on va terminer avec la question de Samy Wondo depuis Gbadolité. Nous avons une fille de 14 ans, son sein gauche gonfle plus que l'autre. Elle sent des démangeaisons. Qu'est-ce que ça peut être, docteur? C'est la question de Samy.
On ne peut pas répondre comme ça. Je ne peux pas répondre comme ça en disant, bon, ça c'est.
Non, il est un peu inquiet, on dirait.
Non, il est inquiet, c'est normal, mais qu'il voit un médecin. C'est le médecin qui va voir. À cet âge-là, le plus souvent, ces boules-là ne sont pas méchantes. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, ce ne sont pas vraiment... Enfin, les cancers est moins fréquent. Ce qu'on peut avoir en ce moment, ce sont ce qu'on appelle les fibroadénomes ou adénofibromes. Hein? C'est un peu comme les myomes au niveau de l'utérus. Donc, ces genres de boules-là ont des caractéristiques échographiques. Il vous montre que ce ne sont pas des boules méchantes, donc ou des tumeurs malignes. Ce sont des tumeurs bénignes. Et en ce moment, lorsque vous avez fait ça, et d'ailleurs, le sang étant très dense, la mammographie n'est pas positive en ce moment. Mais l'échographie, par contre, avec l'homogénéité de la masse, si c'est vraiment homogène sur l'ensemble de la masse, on peut enlever ça. Donc, en bref, à cet âge-là, 14, 15, 16 ans, 20 ans, très souvent, ce sont de nodules bénins. Donc, ce ne sont pas des cancers, ce sont souvent des fibroadénomes. Donc là, il faudrait qu'ils voient les médecins. Et souvent, on peut faire une tumorectomie, c'est-à-dire on enlève la boule, on envoie à l'anapath, on analyse, on vous répond que c'est un fibroadénome, mais ce n'est pas un cancer.
Bien. Voilà. On retient que pour prévenir le cancer, il faut le dépistage précoce est très important. Docteur Isidore Betou, vous êtes gynécologue obstétricien. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci à vous aussi et à tous les auditeurs. Salut. Au capé.